Alors ce Shabbat, avec l'aide de Dieu, on va lire la parashat Ré'é. Voix, ça signifie voir, la vision, Ré'é. Hachem, il nous demande, il nous ordonne même de regarder, de voir. Et de regarder quoi? Finalement, c'est ça le point qui est développé par le Rabbi dans tout le Dvar Malchut. Regarder quoi? En fait, déjà, on doit comprendre que le regard, il implique la compréhension. Quand on parle de regarder une chose, c'est-à-dire de méditer à la chose, de la méditer de manière profonde, de manière même à ressentir cette chose-là. Comme si même qu'elle nous apparaissait comme une belle image. C'est un enseignement du Rabbi Rachab que le Rabbi Rayatz y reprend dans une histoire qui s'appelle la Klipa Noire. Dans cette histoire-là, le Rabbi Rayatz y raconte l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak Verdichev, qui un jour, il a pris ses disciples, ils sont partis dans une agala, ils sont allés dans un village voisin et à la rencontre d'un homme qui était propriétaire de terrain qu'il louait à des juifs et qui les terrorisait. En fait, il avait un chien que les juifs surnommaient la bête noire, la clipate noire, puisque chaque fois qu'il le pouvait, il mordait les juifs. Alors c'était curieux parce que ce chien-là, quand il passait devant des goïms, il se contentait d'aboyer, mais quand il s'agissait de juifs, alors il se jetait sur eux et il les mordait violemment. Donc tous les juifs avaient peur de ce chien-là et peur de leur maître, qui était un homme vraiment qui n'était pas bon, un homme qui était mauvais. Et donc le Rabbi Levi Yitzhak Berditchev a pris ses disciples et il est parti à la rencontre de cet homme. Et quand il est arrivé dans la cour de la propriété de cet homme-là, alors le chien, dès qu'il a vu la Hagala, il a perçu des hommes qui avaient des apparences de juifs, alors il s'est jeté sur la Hagala, il a voulu agresser tous tous ceux qui se trouvaient là. Et l'homme est sorti, le propriétaire du chien est sorti, il avait une arme à la main, et il a pointé son arme vers la Hagala, et il a essayé de tirer une première fois et le coup n'est pas sorti. Et une deuxième fois encore, le coup n'est pas sorti, alors il a pris son revolver et il a essayé de tirer vers le sol pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et en essayant de tirer vers le sol, il a tué son chien. Alors toute l'histoire démarre à partir de là, puisque le Rabbi Yosef Yitzhak nous raconte qu'à partir de ce moment-là, cet homme il a commencé à se métamorphoser. Il a commencé à changer de comportement, puisqu'il nous raconte qu'au moment où l'homme il a aperçu le visage de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il s'est rappelé, comme lui-même il était militaire, du visage du général de l'armée dans laquelle il était officier. Et il a comme ça vu, il a revu le visage de son général, et il a failli même, je crois qu'il s'est même évanoui. Donc ça c'est le point, la clé du récit même de Rabbi Yosef Yitzhak. Il vient nous dire ici que quand un homme il médite à une chose, et il médite de telle manière à voir la chose devant, avec les yeux de son intellect, comme si qu'elle était face à lui, comme, pour reprendre l'expression du Rabbi Rachab, comme une image qu'il va contempler. Quand un homme, il médite à un concept divin, au point de voir ce concept comme une belle image, alors c'est l'occasion pour lui de faire véritablement teshuva. Pour quelle raison? Parce que le fait de se rappeler d'une chose qu'on a vue, le fait de l'imaginer dans son esprit, ça va faire renaître dans notre cœur les sentiments qu'on ressentait au moment où on l'a vu la première fois. Et ça, c'est une qualité que chaque chassid doit acquérir. C'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de méditer à une chose au point de la voir. Et à partir de cette idée-là, le Rabbi Yosef Yitzhak va construire son récit. Et à la fin de son récit, on se rend compte qu'en réalité, cet homme qui terrorisait les Juifs, c'était lui-même un Juif. Et quand il a donc rencontré Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a complètement changé de comportement. Et Rabbi Levi Yitzhak a libéré son âme de la terreur dans laquelle elle vivait. Il a libéré l'âme juive de cet homme. Et cet homme a pu faire tchouva de manière véritable, et on dit même qu'il s'est rendu ensuite à Berditchev et qu'il est devenu un grand disciple de Rabbi Levi Yitzhak et qu'il a même fondé une maison juive. Ce qui est intéressant quand on regarde cette histoire avec un regard peut-être un peu profond, on peut tout à fait établir une comparaison avec les éléments de cette histoire et ce qui est écrit dans le Tanya. Parce que finalement ce chien, la clipa noire telle qu'elle est nommée par les juifs, cette clipa noire, on pourrait très bien la comparer au mauvais penchant. Et le visage du général que que cet homme-là, il a imaginé dans son esprit, on pourrait très, très bien le comparer au Saint béni soit-il. C'est-à-dire, par le fait de méditer à la grandeur du Saint béni soit-il, mais par le fait de méditer de manière profonde, alors on peut anéantir la puissance du Yetzer Hara, la clipa noire, on peut vraiment retourner une situation. C'est pour ça que le rabbi nous dit qu'on doit toujours remplacer une mauvaise idée par une bonne, et on doit toujours aussi chasser l'obscurité par la lumière, c'est-à-dire par le fait d'avoir une bonne pensée. Alors c'est un peu de lumière qui va chasser l'obscurité des mauvaises pensées. Donc cette clipa noire, elle peut très bien être comparée au mauvais penchant. Et le visage général, donc, ça représente l'idée de méditer à la grandeur de Dieu. Et c'est de cette manière-là qu'on peut réellement faire teshuva. Parce que teshuva, c'est pas un terme, on ne doit pas comprendre par le thème de teshuva que c'est seulement le fait de regretter une faute qu'on a commise, mais c'est aussi le fait de revenir vers Dieu. Teshuva, ça se décompose dans les mots tashuv he, le retour vers la lettre he qui symbolise Hachem, le retour vers Dieu. Donc ce retour vers Dieu, c'est exactement le retour vers le lien qui unit l'âme juive avec le Saint béni soit-il. Puisque le rabbi, il ne cesse pas, et inlassablement au cours de tous ses enseignements, c'est au centre de toute la Torah du rabbi, c'est de désigner ce lien-là, le lien de l'âme juive avec Dieu, puisque comme le dit le rabbi lui-même, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. La teshuva, donc, c'est le mouvement de l'âme vers le haut, puisque dans le Tanya on décrit le mouvement de l'âme vers sa source comme celui d'une flamme qui s'élève vers sa source, qui désire quitter la mèche, qui désire quitter sa source, ce qu'on appelle klot hanefesh, le fait, ce mouvement-là de l'âme qui désire se fondre en Dieu, un juif il a conscience même que ça va contre le désir de Dieu, il ne peut empêcher ce mouvement de l'âme vers Dieu. Et du fait qu'il sait que Dieu désire que avoir une demeure ici-bas, alors c'est ce qui fait que l'âme, elle redescend dans un corps, elle redescend dans le corps et s'habille dans le corps et pour accomplir sa mission. Donc ce mouvement de l'âme vers le haut, c'est ce qu'on appelle ratzon, et le mouvement de l'âme vers le bas, c'est ce qu'on appelle shov. Donc cette idée-là, cette idée de réveiller ce désir qui est profond, qui est en nous-mêmes, ça représente la teshuva, ça représente tout le travail du mois d'Eloul, cette recherche d'aller dans le champ, puisqu'on dit que le roi il est dans le champ et qu'il offre à tous un visage bienveillant. C'est le travail qui est désigné par le verset Anil Edodi Vedodili. Anil Edodi, ça représente un travail du bas vers le haut, comme on l'a vu au sujet de la parashat Massé, les étapes des enfants d'Israël dans le désert. Donc c'est dans le désert, ça représente cette clipa noire, justement, qu'un juif il doit affronter. Et il doit affronter ça de manière progressive, d'étape en étape, et de manière à élever toujours son âme vers la pureté, vers la sainteté, en imposant à l'âme animale le désir de Dieu, la volonté de Dieu d'accomplir les commandements divins. Puis vient le dévoilement du haut vers le bas, c'est le dévoilement de Dodili, et là-dessus le rabbi explique que le mot « li » il désigne l'éternité, il désigne, c'est toute la différence qui existe entre le mot « ani » et le mot « anochi ». La différence entre ces deux mots, c'est la lettre « kaf »,« chaf », qui est la première lettre du mot « keter ». Quand le rabbi il explique que la parashat Ré'é, elle commence par le verset dans lequel il est dit, exactement dans les mots, il dit « Ré'é anochi noten lifnechem ayom bracha ». Alors il explique que le mot « Ré'é », ça exprime le fait de se tourner, de tourner son esprit, de méditer de manière profonde à ce qui suit dans le verset, ce qu'il dit exactement. Il dit « noten ». C'est quoi « noten » ? C'est le fait de donner, que Dieu il nous donne une matana, un cadeau divin, et qu'il nous le donne avec « simcha ». L'ifnechem, c'est quoi? Ça désigne la pnimiut. L'ifnechem, ça s'apparente à la pnimiut, à la profondeur. Donc c'est une amshacha milemaala lemata, c'est un dévoilement du haut vers le bas qui pénètre d'abord dans la profondeur de l'homme, comme ça écrit le rabbi, et seulement ensuite dans sa chitsoniut, dans l'aspect révélé de son âme. Ensuite, le mot ayom, il symbolise le dévoilement et la lumière de l'éternité divine. Et le mot bracha aussi symbolise cette amshacha, ce dévoilement du haut vers le bas. Et un dévoilement qui est très 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 élevé et qui parfois même se dévoile. Il est tellement élevé comme le rabbi l'explique et la chassidut l'explique que quand on n'a pas de réceptacle pour recevoir un dévoilement qui est très élevé, alors ce dévoilement-là, il va s'exprimer par l'obscurité. C'est-à-dire que on voit même que les malédictions qui représentent l'obscurité, elles cachent en elles-mêmes une bénédiction. Donc le mot bracha, il désigne ce dévoilement supérieur, ce dévoilement divin supérieur. On pourrait même le dire qu'ici, ça représente le dévoilement du Mashiach et de la délivrance finale. Donc dans ce verset-là, dans le verset de la parasha de Ré, regarde, je mets devant toi la bracha aujourd'hui. On doit comprendre que le mot Anochi, il désigne l'essence, parce que c'est le premier mot des 10 commandements, et donc la différence avec le mot Ani, c'est la lettre Kaf. Anochi, ça possède une lettre supplémentaire, le Chaf. Donc quand on parle de Anochi, on parle du dévoilement de l'essence divine. Et là, exactement, on peut comprendre à présent qu'est-ce que signifie ce verset. On comprend qu'en réalité, il s'agit d'un dévoilement du haut vers le bas, le dévoilement de l'essence divine dans ce monde, et un juif, il doit méditer à cela, il doit méditer à ses paroles, il doit méditer au fait que Dieu, il lui a mis devant lui, il lui a donné dans sa ptimiut la bracha, et qu'en réalité, cette bracha, ça désigne tout simplement la partie de divinité qu'il a donné à l'homme et qui est une partie vraiment chelek elokam imal mamash. C'est à cela qu'un juif doit méditer. Un juif, il doit méditer au fait que Dieu lui a donné une partie de lui-même et qu'à partir de cette partie-là, qui représente la partie la plus profonde de son âme, l'essence de l'âme, un juif, il peut construire une vie entière, une vie éternelle. Il peut dévoiler dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes une lumière qui est au-delà des mondes, même c'est la lumière de la Torah même qui est profonde, et ça correspond à la partie profonde de son âme, l'essence de l'âme, plus élevée encore que le niveau de Yechida. C'est vraiment Chelek Elokam Imal Mamash, ça possède pas de nom, on peut pas la définir, on peut pas la limiter. L'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine, et Dieu sait ô combien le rabbi, il nous enseigne depuis qu'il est devenu officiellement rabbi. Donc dès la première sicha, dès le premier discours inaugural, le rabbi il va parler des niveaux de l'âme, et des différents niveaux de l'âme, et du plus haut niveau, le niveau des Echida. Et tout au long de ces enseignements, tout au long de toutes ces années, le rabbi il nous enseigne à dévoiler ce niveau-là en nous-mêmes pour faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Ici même, dans la paracha Ré, l'accent il est mis sur la vision, Ré, regarde. C'est-à-dire que Dieu il nous demande de regarder, de méditer profondément à ce lien, de méditer profondément à la possibilité qui est donnée à chaque juif de dévoiler ce niveau supérieur. Regarde, ça signifie essayer de comprendre de manière profonde, réfléchis, médite à cette chose-là, comme un chassid. Exactement comme le Rabbi Rayatz nous rapporte dans ce récit avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il nous parle du pouvoir de l'imagination. C'est ça, le fait de regarder. Le pouvoir de l'imagination, le Rabbi Rayatz le décrit comme un pouvoir qui est capable de nous faire accéder à la teshuvah la plus profonde. Comme on sait qu'il y a plusieurs niveaux de teshuvah. Il y a la teshuvah inférieure et il y a la teshuvah supérieure. La teshuvah supérieure, elle correspond précisément à l'aboutissement. Le fait de parvenir à ce niveau-là, parvenir à cette vision-là profonde. On doit parvenir à méditer de manière tellement profonde qu'on doit contempler ensuite une belle image. En quoi elle consiste cette belle image? Qu'est-ce qu'elle représente cette belle image? C'est finalement le lien de l'âme avec Dieu. On doit méditer à ce lien de manière profonde. C'est là tout l'enseignement du Dvar Malchut sur cette paracha. Alors le rabbi, pour introduire toutes ces notions-là, il va nous expliquer que la paracha Tréhé, elle est liée de manière profonde avec le mois d'Eloul. Pour deux raisons. Ou bien on lit la paracha Tréhé, au moment où on va bénir le mois d'Eloul, ou bien carrément le jour de Rosh Chodesh Eloul, comme c'est le cas cette année, et comme ce fut le cas en 5751, quand le rabbi il a délivré cet enseignement sur la paracha Tréhé dans le Dvar Malchut. Donc il existe un lien profond entre la paracha Tréhé et le mois d'Eloul. Alors la question qui est posée ici par le rabbi, elle est simple. Le rabbi demande, quand on parle de vision, c'est un dévoilement du haut vers le bas. C'est la différence qui existe entre l'audition et la vision. Quand il s'agit de l'audition, c'est un travail du bas vers le haut. C'est-à-dire que on doit réfléchir à la chose qu'on entend, on doit méditer à cette chose-là, mais c'est pas aussi évident, ça apparaît pas avec autant de clarté que quand c'est un mouvement du haut vers le bas, comme pour la vision. Quand une chose nous apparaît devant nous, avec nos yeux, devant nos yeux, alors la chose, elle apparaît dans la plus grande clarté. Alors que l'audition elle-même, c'est le contraire. C'est un travail du bas vers le haut qui ne possède pas cet avantage-là. Alors pendant tout le mois de Hav, le rabbi a expliqué la différence qui existe entre le dévoilement qui vient du haut vers le bas et le dévoilement qui vient du bas vers le haut. La différence, elle est très simple. Quand il s'agit d'un mouvement du bas vers le haut, comme pour la parachate Massé, comme on l'a dit, ça représente les étapes des enfants d'Israël dans le désert. Donc ce travail dans le désert, dans ce monde de clipote, la clipa noire, comme on l'a dit, ce travail-là de s'élever du bas vers le haut, de partir du désert pour le sanctifier, pour faire même du désert une demeure pour Dieu. Et on sait même qu'on dit que c'est pas seulement que pendant le mois des loups, le roi il est dans les champs, mais on dit aussi que le roi il est dans le désert. C'est-à-dire il est dans cet endroit de désolation, où il n'y a pas de culture, où il n'y a pas d'arbre, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de bénédiction, et même ça représente ici le rachat. Ça veut dire que même Dieu, pendant le mois d'Eloul, il ouvre la porte aux Rishaïm, et il leur permet aussi de faire tshuva. Donc, ce travail-là, du bas vers le haut, ce travail-là, dans le désert, dans ce monde de clipote, ce travail qui implique de travailler, ça correspond aux 6 jours de la semaine quand un homme il doit travailler, alors il parvient, quand il arrive au terme de son travail, à la veille de Shabbat, à manger le jour du Shabbat, c'est-à-dire à recevoir un dévoilement du haut vers le bas. Ce dévoilement du haut vers le bas, c'est un dévoilement qui est illimité, puisque c'est un dévoilement divin. Seulement, le problème et tout l'inconvénient de ce dévoilement du haut vers le bas, c'est que ça pénètre pas réellement dans l'homme. Pas aussi bien que quand c'est un travail que l'homme il accomplit lui-même. C'est pour ça qu'on parle parfois du pain de la honte, du pain qu'on n'a pas mérité, du pain qui tombe du ciel sans qu'on l'ait mérité. Quand est-ce qu'on mérite véritablement une chose? C'est quand on a sué pour l'avoir, quand on a travaillé de toutes nos forces, quand on a impliqué les 10 forces de notre âme pour faire cuire le pain de la Torah, par exemple. Et alors là, on peut vraiment manger le jour du Shabbat parce qu'on a mérité le pain pour lequel on a travaillé. Alors, quel est le travail qu'on accomplit au mois d'Eloul? Est-ce que c'est Anili Dodi ou bien est-ce que c'est Dodili? Est-ce que c'est un dévoilement du haut vers le bas ou un dévoilement du bas vers le haut? En réalité, le rabbi vient nous dire que ce sont les deux. C'est l'union entre les deux. Un juif, il doit travailler, il doit faire passer ces étapes-là, il doit travailler du bas vers le haut, mais, et c'est ça le point le plus essentiel, il doit agir au-delà de toutes les limites à partir du moment où il travaille du bas vers le haut. C'est-à-dire que l'union de Anil et Dodi avec Dodili, c'est le fait de travailler, de réveiller les sens de notre âme, qui est elle-même au-delà de ce monde et au-delà de toutes les limites, pour agir soi-même au-delà de toutes les limites. Et à partir du moment où on agit au-delà de toutes nos propres limites, alors le dévoilement qui va venir du ciel, celui-là, on va l'intégrer véritablement. C'est ça l'union entre les deux. C'est ça l'union entre Adin et Dodi, Védodili. C'est le fait d'agir au-delà de toutes les limites. Comme on l'a dit au sujet de l'arche, l'arche, quand on la place dans le Kodesh HaKodashim, alors elle prenait plus de place, justement, elle perdait ses mesures. Il y a un miracle qui se produisait dans le Saint des Saints, elle perdait ses mesures. Pourtant, c'est un objet matériel, c'est un objet qui possède des mesures. C'est exactement la même chose. C'est ça, Anil et Dodi, Védodili. Anil et Dodi, ça représente les mesures de l'arche, les mesures qu'un homme il doit acquérir dans un ordre établi, Seder. D'ailleurs, Seder, ça ressemble, le mot Seder, il ressemble au chiffre 770. Et il y a vraiment une relation qu'on peut faire entre le mot Seder et le chiffre 770. Puisque sont vraiment, si on écrit le mot Seder, on le regarde, on voit devant nous le chiffre 770. Et on voit et on doit comprendre que précisément le Rabbi, il nous enseigne non seulement à avoir de l'ordre, non seulement cette qualité-là, on doit l'acquérir, c'est très important, mais c'est précisément par le fait d'acquérir l'ordre, de s'attacher à ce monde matériel pour le sanctifier et le purifier, qu'on parvient à ce que l'arche ne prend plus de place dans le Kodesh HaKodashim. On parvient à dépasser nos propres mesures et à agir au-delà de toutes les limites. Donc on voit ici que le moyen de parvenir à ce travail-là, à la Teshuvah du mois d'Eloul, c'est-à-dire à agir au-delà de toutes les limites, c'est essentiellement par le fait de s'attacher au Rabbi. Comme il est dit dans la Torah, dans la partie profonde de la Torah, on dit que celui qui se trouve dans les quatre coudées du Rabbi, alors l'essence de son âme se révèle à ce moment-là. Tout le problème, c'est de parvenir à se trouver dans les quatre coudées du Rabbi. Ça signifie, de manière concrète, à s'attacher à son enseignement, et de manière profonde, à voir son enseignement. On dit que dans le discours chassidique, Ve'atat et Tzavé, le Rabbi, il explique que les Daniel, le prophète, quand il était accompagné de juifs avec lui, et Daniel a vu des choses que tous les hommes qui l'accompagnaient n'ont pas vues. Mais on dit, c'est écrit dans la Guémara, que même s'ils n'ont pas vu les choses que Daniel a vues, leur mazal, lui, l'a vu. C'est quoi le mazal? Le mazal, ça correspond au niveau de Chaya. C'est déjà l'essence de l'âme juive. Le niveau de Chaya, ça représente l'âme qui est en haut, l'âme qui voit le divin, et qui influence l'âme qui est en bas, l'âme qui s'habille dans le corps. C'est pour ça que le mot mazal, on l'apparente au mot nozel, nézilout, le fait de dégouliner, des gouttes qui dégoulinent du bas, du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que le mazal, c'est cette partie de l'âme qui voit le divin et qui va envoyer des gouttes à l'âme qui s'habille dans le corps, des gouttes de Emouna. Elle va transmettre sa vision, la vision qu'elle a du divin, à l'homme qui se trouve en bas dans ce monde. Mais il ne le voit pas réellement, il le ressent, il voit, mais c'est la profondeur de son âme qui voit à ce moment-là. Tout le travail d'un juif, c'est de parvenir à dévoiler cette vision de manière profonde. C'est-à-dire qu'à dévoiler la vision de l'âme qui est en haut, de manière à ce que nous-mêmes, par nos efforts, par le fait de méditer un concept divin de toutes nos forces, et ça, c'est le Rabbi a expliqué souvent que l'importance d'étudier les discours chassidiques de la Mohem Mtsaï, puisqu'ils étendaient la parole de son père, puisque c'est comme un fleuve large qui provient d'une source. Comme on sait qu'une source, ce sont de simples gouttes, ça correspond à la qualité de Chorma, et le fleuve, il correspond à Bina, le fait d'étendre une chose. Donc, la Mohem Mtsaï nous a donné la possibilité d'élargir la vision qui nous est donnée par son père, l'Admor HaZaken, de l'élargir au point que nous-mêmes, on doit parvenir à voir, à ressentir la chose comme si elle était devant nous. Il y a énormément de points très précieux qui sont donnés dans cette paracha, de la paracha Tréhé. Notamment, le Rabbi nous rappelle que le mois de Av, qu'on est sur le point de quitter, puisqu'on est sur le point d'entrer, Rosh Chodesh Eloul, dans ce mois d'Eloul, le mois de Av, le mazal du mois de Av, c'est le lion, c'est Arié. Et il nous rappelle l'enseignement des sages selon lequel les lettres du mot Arié, le Aleph, il correspond au mois d'Eloul, c'est la première lettre d'Eloul, le Resh, Rosh Hashana, c'est la première lettre de Rosh Hashana, le Yud, il correspond à Yom Kippour, et le He, à Hoshana Rabba. Donc on voit déjà que dans le mois de Av, toutes les fêtes de Tishri et tout le mois d'Eloul qui nous prépare aux fêtes de Tishri, il est déjà contenu dans le mois de Av. Et le mois de Av, évidemment, on doit se rappeler cet enseignement très précieux du Rabbi, puisqu'il nous dit que le jour où le temple a été détruit, et qu'en fait il parle d'une reconstruction, puisqu'il n'a pas été détruit, il a été seulement détruit pour être reconstruit. Ce jour-là du 9 Av, il correspond à la naissance du Mashiach. Et on avait comparé ce jour du 9 Av à la Nehila, au moment où Dieu il dévoile l'essence de l'âme juive. Donc on voit que pendant le mois de Av, si on s'est attaché aux enseignements du Rabbi dans le Dvar Malchut en particulier, sur toute cette période-là, alors on se prépare au mois de Elul, se prépare à réaliser cette union entre Anil et Dodiv et Dodili, et on doit se rappeler que cette union-là, elle représente le fait d'agir au-delà de nos propres limites pour précisément attirer un dévoilement qui sera au-delà de toutes les limites. C'est intéressant de se rappeler aussi, ici, d'un enseignement du Rabbi Rachab dans son livre, son ouvrage qui s'appelle « Avoda », le travail, le service divin d'un juif. Et là-bas, il explique que même ce dévoilement du roi qui est dans les champs, le dévoilement de Dieu qui est dans les champs au mois d'Eloul, ce dévoilement-là, la qualité de ce dévoilement-là, elle dépend du travail qu'on a accompli toute l'année. C'est intéressant de se rendre compte que finalement, toute la lumière qu'on attire pendant le mois d'Eloul et toute cette lumière qu'on va attirer encore plus pendant le jour de Rosh Hashana, cette lumière que Dieu il va dispenser pour toute la terre et pour toutes les âmes et pour tout le monde entier et tout ce qu'il contient là, cette lumière-là qui va se dévoiler ensuite pendant les fêtes de Tishri, pendant la fête de Sukkot, pendant la fête de Simchat Torah, toute cette lumière-là, elle dépend de nos actes toute l'année. Donc évidemment, celui qui s'est attaché toute l'année, il est comparable, on peut dire, à son sujet, le verset vraiment de la Torah dans lequel on dit que celui qui travaille pendant les 6 jours de la semaine, alors il mange le jour du Shabbat. Le Shabbat, il exprime le dévoilement de la volonté de Dieu et le dévoilement même de l'essence de l'âme juive, puisqu'on dit qu'on reçoit pendant le Shabbat une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire, elle correspond au dévoilement de l'essence de l'âme juive. Donc on voit encore ici, à nouveau, le Rabbi ici, dans ce Dval Malchut, il nous apprend à faire l'union entre ce qui est limité et avec ce qui est limité, de faire l'union entre Dieu et l'homme. Cette union-là qui existe déjà dans les mondes supérieurs, puisque l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, mais ce lien-là, il doit apparaître à l'évidence aussi dans ce monde ici-bas, vraiment dans tous les éléments, dans tous les niveaux du monde dans lequel on vit. Alors on pourrait dire même, et on pourrait finir sur cette idée-là, on pourrait se rendre compte que la parachat Ré'é succède à la parachat Ékev. Ékev, ça représente le talon. Le talon, ça correspond à l'action. Et par le fait d'agir, et surtout par le fait de se soumettre, puisqu'on voit que toute action, elle est soumise à la tête, de là, on pourrait comprendre que c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles la parachat Ré'é, elle est précédée par la parachat Ékev, c'est pour nous souligner le rapport qui existe entre le talon et la tête. Dire que le talon, il représente le chassid, qui est parfaitement soumis à la tête, au rabbi, et par le fait qu'il est totalement soumis au rabbi, alors il parvient à la vision du temple, à la vision du machiar, Bezrat Hashem, dès à présent, avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, au revoir.